Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et c'est donc la dernière de la saison. L'occasion de faire le bilan, calmement. Son bilan, calmement. Il aura donc passé sa saison à vociférer contre l'UEFA, à râler contre Mbappé, rouspéter contre la FIFA, maugrer contre Neymar, se plaindre de la Super League, rager contre la suppression de la règle des buts à l'extérieur, fumer contre les prêts, pester face au trophée UNFP ou protester à l'idée d'avoir un mondial tous les deux ans. D'aucuns l'accusent de conservatisme, voire d'être un tout petit peu réac sur les bords. Mais c'est faux. Et c'est injuste. Parce que derrière cette armure du « c'était mieux avant », il a su cette année ouvrir son petit cœur. Cette saison, il a eu quelques visions et je dois le dire, plutôt bien senti. Il a défendu bec et ongles Antoine Griezmann, qui du coup a fait un immense euro. Il a fait de la Turquie son coup de cœur de l'euro. Et il a prévenu la terre entière du retour de la Grande Allemagne. Je me souviens, avant l'euro, Martin, je te le dis, il ne sera jamais deux fois de suite les Allemands. Bien vu. On peut dire qu'il connaît le foot comme personne. Ses pronos à MPP rappellent chaque jour son expertise. Et c'est un immense honneur de l'avoir en notre compagnie chaque vendredi. Comment ça va, Maxime Paco Rabanne Dupuis ?
Alors, ça va très bien. Mais en fait, dans tout ce que tu dis, en fait, le plus intéressant, c'est mes coups de gueule d'avant. C'est-à-dire d'avant. Ah, oui. Ah ben, Mbappé, est-ce que l'euro m'a donné tort ? La règle du but à l'extérieur, ça me donnera raison. Parce qu'on aura des prolongations à gogo, ce sera la loterie, ce sera les jeux du cirque. L'UEFA, je ne sais plus trop bien.
Bon, bah, l'UEFA, ils prennent chaque semaine, de toute façon, Maxime. Donc,
La FIFA, non, bah, et puis, non, mais s'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'avoir un mondial tous les deux ans, c'est une bonne idée, moi, je suis prêt à laisser
et
ma place.
Reparti, hein. Ouais, il est reparti. Non, bon, voilà. En tout cas, la Turquie, l'Allemagne et Griezmann, c'est bien vu, Maxime.
Incroyable. Ouais, bon, alors, Griezmann, on le partage. Hein.
On le partage, c'est vrai. Bah, tu sais,
voilà.
J'ai toujours un peu de mauvaise foi quand même.
D'aucuns viennent nous chercher sur les réseaux pour nous accuser d'être pro-Griezmann, que c'est notre chouchou. Non, on aime bien les joueurs intelligents, c'est tout, les bons joueurs de football. Mais bon, ça, c'est qu'est-ce que je te dise.
Ouais, mais ça, on est peut-être trop intelligent pour le reste du monde, Maxime.
Ah non, peut-être ça notre problème. Dire ça. Ouais, alors attention, hors contexte, le retour de la Grande Allemagne, ça peut. Si quelqu'un coupe cette séquence.
La Grande Allemagne en compétition internationale, Maxime. Ouais. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Alors, et moi non plus, surtout.
Voilà. Et ça fait quand même aussi un mois que tu me dis non, mais les Anglais, ça va finir par craquer. C'est les Anglais.
Bah oui, mais non, mais parce que j'exorcise, parce que j'aimerais bien les voir gagner pour le coup. Et donc, mais cela dit, demain, bon, on en parlera dans les pronos, mais j'ai quand même un doute, voilà. Mais bon, mais c'est beau, bon. C'est beau. Mais justement, mais tu sais ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est la vie, c'est le football, voilà, c'est un jeu. On oublie que c'est un jeu et que tout est imprévisible et qu'on est quand même au cœur d'une saison complètement barrée dans tous les sens.
Exactement. Exactement. Et il faut l'achever cette saison, Maxime. Ouais. Elle s'achèvera symboliquement dimanche avec. La finale de l'Euro. On a trois sujets aujourd'hui dont on aimerait débattre avec vous. Trois sujets brûlants, trois sujets d'actualité. D'abord, Le Graët, qui a maintenu dans ses fonctions dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, il a maintenu dans ses fonctions Didier Deschamps plutôt que d'avoir recours à Zinedine Zidane. On se posera la question, toute simple, toute bête. Le Graët a-t-il raison de préférer Deschamps à Zidane ? Voilà, ce sera notre premier sujet. Avec ce bon vieux Maxime. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime ?
Ouais, non, ensuite, on parlera évidemment parce qu'une stream team sans Antoine Griezmann serait pas.
C'est pas une stream team.
Faudrait faire dans les bilans le nombre de citations des joueurs, des équipes, etc. Je pense que Griezmann serait pas mal classé. Mais en l'occurrence, il y a une actualité autour d'Antoine Griezmann. Bon, il a jamais été très bien assis sur son siège au Barça, toujours un peu le cul entre deux chaises. Et là, on a l'impression que c'est même plus une demi-fesse qu'il y a et que le Barça serait bien. Entre guillemets, aurait bien envie de le lâcher pour ramasser un peu de cash, voilà. Ben, on va se poser la question de l'avenir de Griezmann. Est-ce qu'il n'est pas maintenant, ça nous fait mal au cœur de le dire, mais sur un déclin un peu irrémédiable. Il y a eu 7 euros qui est compliqué, où il a perdu un peu le fil aussi de son leadership technique. Ben, on va se poser la question de la suite pour Antoine Griezmann et surtout, est-ce qu'il aura intérêt à quitter le FC Barcelone cet été?
Et on terminera avec le Ballon d'Or parce que c'est peut-être le week-end où tout peut basculer. Là, on est dans une hiérarchie qui est très, très, très floue. Bien malin, celui qui peut annoncer aujourd'hui qui sera Ballon d'Or en fin d'année. Est-ce que ça peut basculer avec la finale de la Copa América et ou avec la finale de l'Euro? Voilà, c'est des questions qu'on se posera en fin d'émission. Évidemment, restez avec nous jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes, les mauvaises, les moyennes, les médiocres, les excellentes plateformes de podcast. Vous avez été très, très, très nombreux à nous suivre puisqu'on a fait plus de 500 000 écoutes lors de l'Euro, donc en 15 jours. Donc, c'est monstrueux. On était très, très, très contents. On est remonté dans Apple Podcast. Je vais vous dire, Maxime, dans les rues de Budapest et Bucarest, il gonflait le torse. Ah, mais je vais vous dire, on aurait dit Mbappé sur un terrain de foot. Avec les jambes arquées, là, il marchait comme un cow-boy. Voilà. Et puis, vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission, évidemment, sur eurosport.fr. On y va, Maxime ?
Ouais, on y va. Et d'ailleurs, cette émission, normalement, dans un monde idéal, on était en train de la faire devant Wembley aujourd'hui. On est revenu pour la dernière dans le studio. La lumière me pique les yeux. Je suis complètement paumé là-dedans. Je sais plus où j'en suis. Donc, c'est bien que ce soit la dernière pour qu'on remette la machine en marche.
Parce que, Maxime, on va dire la vérité. Ton corps est à Issy les Moulineaux. Mais ma tête, et ton esprit est encore dans les bars de Bucarest. On va dire la vérité, Maxime. Hein, bah oui.
Comme c'est l'esprit.
Donc, l'esprit, exactement. Allez, on va démarrer avec Didier Deschamps qui a été maintenu dans ses fonctions par Noël Le Graët. C'était hier jeudi dans les colonnes du Figaro. Donc, Noël Le Graët qui a dit qu'il s'est très rapidement mis d'accord avec Didier Deschamps que l'aventure se poursuivait entre les deux hommes. La seule limite, c'est que normalement, Didier Deschamps ne devrait pas prolonger son bail au-delà du Qatar, sauf si ça se passe bien au Qatar. Donc peut-être qu'il y aura une prolongation, mais en tout cas, il démarrera la Coupe du Monde sans assurance derrière. On va se poser la question, alors que Zinedine Zidane est là à trépigner, à attendre le banc de l'équipe de France. Maxime, est-ce que Noël Le Graët a bien fait de préférer Deschamps à Zidane?
Alors déjà, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je te la donnerai après le Qatar. C'est très compliqué. Maintenant, je ne vais pas changer d'avis sur ce que j'avais dit post-Euro, c'est-à-dire que Deschamps s'est planté et la défaite, pour lui, pour le coup, l'élimination prématurée, lui est quand même bien imputable parce qu'il a perdu le fil de son équipe et le fil de ses idées, ce qui est assez rare. Maintenant, Noël Le Graët a décidé de le conserver. Déjà, il faut le dire, il y avait un contrat qui courait encore jusqu'au Qatar parce que la règle est tacite entre les deux hommes. C'est-à-dire que quand Didier Deschamps en gros se qualifie pour une compétition, on le reprolonge pour ne pas lui mettre la coupure et la césure juste après la compète ou avant.
Mais si j'ai bien compris, tu es d'accord avec moi, ce ne sera pas le cas au Qatar s'il se qualifie.
J'allais y venir. Voilà. La seule petite différence finalement dans le contrat qui lie les deux, c'est que Didier Deschamps, quoi qu'il arrive, s'il se qualifie pour la Coupe du Monde au Qatar, n'aura pas un surplus de contrat qui irait jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Non, non. Là, c'est la seule petite différence qu'il y a. Et c'est presque ça qui m'interroge. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Noël Le Graët a dit à Didier Deschamps, Florence Hardouin aussi, il les a fait venir dans son fief en Bretagne. Vous venez me voir, vous déplacez, vous venez chez le boss. On va discuter de ça. Ce que je retiens de l'excellente interview de nos confrères du Figaro, c'est qu'en gros, on a l'impression qu'il a questionné Deschamps sur son envie ou non de continuer. Or, pour moi, dans le contrat qui doit lier les deux parties, le contrat moral et le contrat technique, il doit aussi y avoir une part qui revient à Noël Le Graët qui dit « Écoute, pas de problème pour moi, mais… » Parce qu'il y a un mais. Alors les mais, ça n'a pas toujours marché. Souvenez-vous, Raymond Domenech, il y avait un mais et 10 minutes après, le contrat, il était coupé, déchiré dans tous les sens, déchiqueté. Didier Deschamps, c'est pas Raymond Domenech et ça ne se serait pas passé comme ça. Voilà, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand je lis cette interview-là, quelle conclusion on tire de cette élimination, hormis quelque chose qui revient très très régulièrement dans l'interview du Figaro, c'est « Ah mais je comprends toujours pas comment ils sont revenus de 3-1, 3-3 ». Voilà. On a l'impression que la seule question, c'est de dire « Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» En gros, c'est le jeu. Or non, il faut trouver aussi des autres raisons à ça, qui vont au-delà, évidemment, de l'hôtel des Bleus. Parce qu'on a l'impression que le fusil, finalement, c'est Florence Hardouin. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus suivre les Bleus, mais derrière, Le Graët dit « Oui, mais ce n'est pas seulement l'hôtel. » Moi, ce que j'aurais aimé derrière ça, c'est peut-être qu'il y a une conférence de presse commune qui valide le fait que Didier Deschamps reste. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, même s'il faudra faire gaffe au tournoi de trop, parce qu'on l'a vu, c'est rarement une bonne idée de continuer. Mais il aurait fallu quelque chose, peut-être, avec au moins un symbole. Et là, le symbole, on ne l'a pas. On continue. J'ai l'impression qu'on continue comme si de rien n'était. Or, la situation a changé pour moi.
En fait, pourquoi il reste Didier Deschamps ? Alors, il y a un contrat de confiance avec Noël Le Graët. C'est vrai que c'est un duo qui marche très, très bien. Donc, ça, c'est la raison numéro une, ça, c'est certain. Mais aussi parce que ni l'opinion ni les médias n'ont condamné Deschamps, qui bénéficient quand même d'une relative mansuétude eu égard à ce qui s'est passé cet été quand même. Parce que moi, j'ai déjà dit ici, je le répète, c'est pas le seul coupable, mais c'est le principal responsable de l'échec des Bleus. Et ça, comme tu le dis, Maxime, j'aurais aimé qu'on en tire les conclusions du côté de la FFF. Il n'a pas tenu son groupe comme en 2018. Il n'a pas su créer un projet commun comme en 2018. Les individualités ont pris le pas sur le collectif. On pense à Mbappé, c'est le plus évident, mais pas le seul. D'ailleurs, quand il parle de ses 10 dernières minutes face à la Suisse, bah, c'est tout à fait révélateur de ce point de vue-là, que les individualités ont pris le pas sur le collectif. Il a perdu le fil tactique, il a tenté des expériences quand il fallait des certitudes, il a fragilisé son groupe, etc. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est une vraie question dont j'ai pas la réponse, comme toi, Maxime, c'est est-ce qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour mener cette équipe de France vers le Qatar ? Pour revenir à Zidane, il a l'avantage d'avoir une personnalité qui fédère autour de lui, un peu comme Deschamps en 2012, d'imposer une autorité naturelle, un peu comme Deschamps en 2012. Et que Zidane peut tout faire passer. Si par exemple, alors je vais donner des exemples, mais j'ai pas de certitude, mais si pour le bien de l'équipe de France, eh ben, il faut pas que Kylian Mbappé joue à gauche, mais qu'il joue à droite. Si pour le bien de l'équipe de France, il faut enlever Antoine Griezmann ou Karim Benzema de ce 11-là, j'ai la certitude que Zidane saura l'imposer. J'ai pas la certitude que Deschamps saura le faire au vu de ce qu'il a montré lors de l'Euro. Et c'est juste pour ça, moi, que j'ai un vrai doute qui m'habite, parce que aujourd'hui, je ne sais pas si Didier Deschamps a encore ce pouvoir sur ces joueurs-là qu'il a mené à la baguette, le moins un peu fort, mais en tout cas qu'il a su fédérer autour d'un projet commun en 2018. Il n'a pas su le faire en 2021. Est-ce qu'il peut de nouveau le faire en 2022? Il va falloir qu'il monte l'écrou à un moment donné, tout simplement.
Ouais. Une chose est sûre, dès la rentrée, pour les premiers matchs, il va falloir qu'il donne des signes tangibles de ça. C'est-à-dire, déjà, peut-être dans le groupe, dans l'ouverture du groupe.
Oui, mais quelle est sa marge de manœuvre ? C'est ça aussi,
C'est à lui de se la créer. C'est à lui d'imposer, peut-être. Il va être obligé de montrer. Non, mais en plus, Didier Deschamps, c'est un animal médiatique. Il sait, quand vous l'interviewez, il vous donne sans trop en donner, mais il vous montre des choses. Je pense qu'il fera. Il y aura quelque chose en septembre, soit peut-être sur l'ouverture, soit justement décider de mettre des joueurs et peut-être tester aussi les joueurs, leur dire bah, « là, c'est moi qui décide, je vous mets là ». Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire et de penser qu'il avait complètement perdu le fil avec son groupe, non. Mais c'est des petites choses qui font que ça a basculé. Après, ce que tu disais sur
Tu vois, moi j'ai deux exemples. J'ai la conf de Mbappé et la conf de Griezmann. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Mbappé qui vient et qui dit « ouais, alors il paraît qu'ils se sont mis d'accord pour les pénaux. Ouais, bah, moi j'aimerais bien les tirer ». Ou Griezmann qui dit entre les lignes « j'ai joué à droite, mais vous savez très bien que je suis bien meilleur dans l'axe ».
Après, il y a le fond et la forme. Il y a le fond et la forme. Griezmann, c'est pour moi sur la forme plus acceptable que la forme qu'avait mis Mbappé.
Mais le message au fond.
Oui, mais quand ça va moins bien, forcément. Voilà. Quand ça va. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ils l'ont dit. Voilà. Après, pour ce qui est de la campagne de presse, c'est intéressant parce que je suis quand même assez. Bon, peut-être pas persuadé, mais peut-être à 80% que si la presse avait poussé très fort derrière Zidane. Après l'élimination, je ne sais pas ce que Noël Le Graët aurait décidé. Voilà. Très honnêtement, voilà. Est-ce qu'il aurait suivi ça ? Je ne sais pas. Prenez les échecs précédents de l'équipe de France, Le Maire. On aurait pu lui trouver aussi des raisons de rester à Roger Le Maire. Il avait gagné l'Euro avec la plus belle équipe de France. Il se plante une Coupe du Monde, ça aurait pu être dire « Bah oui, là il s'est planté, ça arrive une fois, c'est un joker. » Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas la même valeur d'échec. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus grosse différence pour moi. Et Domenech, j'en parle pas. Ce qui est intéressant aussi dans le discours de Le Graët vis-à-vis de Zidane, la question lui revient tout le temps. Est-ce que Zidane sera un jour sélectionneur de l'équipe de France ? Jusqu'ici, il a toujours dit oui. C'est le sens de l'histoire, il sera sélectionneur. Si vous lisez l'interview donnée au Figaro, il dit « il sera peut-être un jour sélectionneur ». Alors ça dit quoi ça ? Alors, ça ne dit pas qu'il pense qu'il ne sera jamais sélectionneur. parce que je pense qu'il en est toujours convaincu, mais ça dit que Didier Deschamps est un peu, par la force des choses, fragilisé. Et dire aujourd'hui que Zidane serait sélectionneur à coup sûr, ça dirait quoi ? Bah, ça amène une question. Ça, la question, c'est bah, pourquoi pas maintenant, tout simplement. Donc voilà, on voit qu'il marche sur un fil, qu'il est sur un fil avec Didier Deschamps, et que bah, il faudra aller très vite et donner dès la rentrée des petits indices qui font que quelque chose a changé. Parce que, en fait, c'est la définition de la folie. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'il y aura des conséquences différentes. Et bien, penser que ça marchera comme ça a marché avant, alors que ça n'a plus marché en faisant la même chose, c'est pas possible. Donc, il va falloir, dès la rentrée, qu'il y ait quelque chose qui change, peut-être dans les joueurs, dans une forme de hiérarchie. Dans le management, je ne sais pas, mais il y aura des choses tangibles à montrer. Ça, c'est sûr.
On a fait le tour de la question, Maxime ?
Ouais.
Ou tu as des choses à rajouter ?
Non, la question, on pourrait se dire, est-ce que Zidane veut être sélectionneur ? Bah oui, la question, la réponse est évidemment.
C'est une évidence.
Il quitte le Real. Alors, ça tombe toujours bien, parce qu'il y a des fins de cycle. Et que voilà, mais en 2018, il quitte le Real. Et 2021, c'est toujours avant une grande compétition. Et il n'y a pas de mal à ça. Hein.
Mais je pense et que on n'a pas l'impression qu'il ait une envie folle de reprendre un club là.
Ouais, non, je pense
donc,
pas.
Et puis, de toute façon, les places sont prises. Donc, sans doute que jusqu'au Qatar, ouais, il restera tranquillement en vacances ou en observation. Et ouais, voilà, et qui reste surtout en embuscade pour le banc des Bleus.
Et ce qui serait intéressant au Qatar, c'est déjà de voir si Deschamps a envie de replonger, s'il réussit la Coupe du Monde au Qatar, et aussi de se dire, mais c'est quoi une Coupe du Monde réussie désormais ? Le Gret n'a pas parlé de son habituelle demi-finale, mais on n'est pas loin de penser que ce sera le niveau requis pour réussir une Coupe du Monde, parce que là, un quart de finale ou encore un huitième de finale, ce ne serait plus un accident, ce serait un vrai déclin, et ce ne serait pas acceptable, donc... Voilà, je pense que Zidane a 60-70% de chance d'être le prochain sélectionneur de l'équipe de France post-Coupe du Monde 2022, même si on a très envie de voir l'équipe de France garder son titre, évidemment.
Et il y a un autre joueur qui jouera la Coupe du Monde 2022, ce sera sans doute sa dernière, c'est Antoine Griezmann. Là, j'ai fait une transition digne de Maxime Dupuis, là. Je suis assez fier de moi, je dois dire. Antoine Griezmann, dont on se demande ce qu'il va devenir dans un avenir proche ou à même moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que son entraîneur, Ronald Koeman, a tout simplement jeté le voile sur son avenir au FC Barcelone. Le message, il est clair. Griezmann, c'est un joueur important, mais s'il faut le sacrifier pour faire venir Messi, eh ben on le sacrifiera. Voilà. En gros, le message, c'est celui-ci. Et ça entérine le déclassement d'Antoine Griezmann, qui vit des moments difficiles. Il y a eu l'Euro, où son leadership en équipe de France s'est largement effrité, pour ne pas dire effondré. On l'a vu jouer à droite, puis on l'a vu remis dans des conditions idéales derrière Benzema. Ça n'a jamais marché. On l'a vu laisser des pénaltys. Enfin bref,
de toute façon,
les coups francs, ça n'a pas fonctionné. Il y a la polémique avec la vidéo publiée sur les réseaux sociaux où on voit Dembélé être injurieux envers des Japonais. Voilà, lui, il est là et il y a un sponsor qui l'a lâché déjà. Il y a le Barça qui lui a demandé de faire ses excuses. Et maintenant, il y a ces propos de Ronald Koeman qui, si on lit entre les lignes, elles sont plutôt claires quand même. Donc, Griezmann, champion du monde en 2018, troisième du Ballon d'Or en 2018, qui aujourd'hui joue les variables d'ajustement dans son club, est un peu borduré en sélection. On a l'impression, Maxime, en regardant sa trajectoire, qu'on est dans un interminable déclassement et dont on a du mal aussi à voir le bout.
Ouais, et puis il y a un truc qui me gêne avec Koeman, c'est depuis qu'il est arrivé, je ne vais pas dire qu'il s'essuie un peu les pieds sur Griezmann, mais c'est un peu l'effet paillasson. C'est un peu, à chaque fois qu'il y a un problème et Griezmann demande quelque chose, il prend un taquet. Voilà, souvenez-vous quand il jouait sur le côté, il dit non, mais en gros c'est moi qui décide. Là, c'est la variable d'ajustement.
Mais en fait, c'est toujours pareil parce que c'est plus facile de taper sur lui.
Oui,
aussi.
Mais il pourrait aussi ne pas taper dessus et être comme il est avec un joueur normal, c'est-à-dire dire c'est pas un sujet, etc. Au fond, il a raison. La priorité du Barça, c'est évidemment Messi. Dire autre chose, ce serait aberrant. Mais d'en faire une variable qui est corrélée à ça, il pourrait dire autre chose. Il y a des manières. En fait, ça dit aussi. Est-ce qu'il ferait avec un autre joueur ? Je sais pas. Là, c'est vraiment à chaque fois. Avec Griezmann, on se permet parce que je pense qu'il a ce caractère-là. Et encore une fois, c'est une force et c'est en train de devenir une faiblesse. C'est-à-dire que d'être très open sur le reste du groupe, être dans le partage, dans le don de soi, c'est super. Et moi, je ne dirais jamais le contraire. Maintenant, c'est en train aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où ça se fissure un peu et où il est en position un peu moins de force, voilà, c'est open bar pour tout le monde. Et encore une fois, l'Euro, ça a été le meilleur exemple. Voilà. Griezmann, on l'a dit suffisamment ici, il y a eu un moment où on s'est dit, je crois que c'était l'hiver dernier, on disait « Non mais ça ira jamais de toute façon, Barça, quoi qu'il arrive. » Parce que un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, mais ça n'ira jamais vraiment, tout simplement. Et là, ce que dit Koeman, ce que laisse entendre la presse, ça dit que oui, c'est juste une variable. C'est un joueur à 100 millions, s'ils peuvent en tirer 80, 70 millions, ce sera très bien pour tout le monde et sûrement mieux pour le joueur et pour le club, voilà. Donc là, je pense qu'il faut qu'il parte. Alors la question, c'est de savoir où. Là, c'est hyper compliqué, mais j'ai peur que s'il reste une année de plus au Barça, ce sera la même histoire qu'il y ait Messi ou pas. C'est-à-dire que ce sera toujours la variable d'ajustement. C'est le mec qu'on met, parce que c'est facile de mettre Griezmann d'un côté ou d'un autre sur le terrain, parce qu'il en a les qualités, et aussi parce que c'est le bon bougre qui ne va rien dire.
Puis on rappelle qu'il y a Memphis Depay quand même, qui est l'homme, pour le coup, de Ronald Koeman. Ça a été son sélectionneur avec les Pays-Bas, donc on peut se dire que dans la hiérarchie, soit il n'est pas loin de Griezmann, soit il est même devant lui. Il y a Agüero qui vient d'arriver aussi. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes postes, mais en tout cas, on attaque. Avec le retour de Fatih, Dembélé, même s'il sera blessé au début de saison, Messi, Agüero, Braithwaite, tous ces joueurs-là, Depay, etc. Aujourd'hui, Griezmann, très clairement, il n'est pas évident qu'il parte cette saison en tant que titulaire. Donc, c'est… Voilà, il y a cette donnée-là. Le péché originel pour moi, c'est qu'il ait voulu rejoindre un club qui ne lui ressemble pas, mais ça, je l'ai toujours dit. Qu'il ait voulu rejoindre un club où il y avait le plus fort au monde à son poste et dans sa zone d'influence. Donc ça, c'est le péché originel, l'erreur fondamentale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on constate un déclin qui a été quasi immédiat en club, qui s'est fait attendre en sélection parce que ça a plutôt toujours bien marché. Et pourquoi ça n'a pas marché cet euro? Parce que Benzema, je vais exagérer un tout petit peu, mais il y a un peu de ça, c'est que Benzema est devenu le Messi de Griezmann en sélection. C'est-à-dire qu'il a grignoté un peu quand même sur sa zone d'influence. Il a obligé quasiment Griezmann à revoir ses plans dans son positionnement. Il a obligé Griezmann à partager le leadership en attaque. Et puis parce que c'est de là, sur le terrain en tout cas, je crois savoir qu'à l'extérieur, ce n'est pas la guerre du tout, mais sur le terrain, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et qu'il y avait un duo Benzema-Mbappé et à côté, un Griezmann qui était un peu tout seul. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que le déclassement, il est évident. C'est comme ça que tu passes de 3e du Ballon d'Or en 2018 à ce que je disais tout à l'heure, variable d'ajustement dans ton club. Variable d'ajustement en sélection, puisque finalement Deschamps a fini par le mettre à droite parce que les deux autres sont meilleurs à gauche et dans l'axe. Alors que tu es censé être le patron de cette sélection-là. Et aujourd'hui, quel est l'avenir? Alors, tu en as parlé en club, mais en sélection. Il faut se poser la question de l'avenir de Griezmann en sélection. Évidemment qu'il sera appelé, c'est pas ça le problème. Mais si tu construis autour de Benzema, ce qui, à mon avis, va être le cas, il va peut-être falloir sacrifier Griezmann. Alors, pas sur le banc, mais peut-être dans une position. Parce que finalement, l'équipe de France, quand est-ce que ça a bien marché? Quand Griezmann était à droite face à l'Allemagne. C'est terrible parce qu'on voit la perte d'influence du joueur majeur des Bleus depuis 2016 jusqu'à 2018, soit la période la plus dorée de l'histoire de l'équipe de France en 20 ans. Ça fait un peu mal au cœur, mais c'est une vraie trajectoire.
C'est une vraie trajectoire. Alors moi, je suis pas aussi définitif pour le Barça, c'est-à-dire pour le fait qu'il l'ait rejoint. Moi, je pense surtout que le péché original, c'est de l'avoir rejoint un an trop tard. C'est-à-dire
que ça, c'est vrai aussi.
Il y avait 2018. Il a dit non.
Mais est-ce que ça aurait pu marcher? Je sais pas.
Et je sais pas, mais au moins il arrivait dans des conditions plus favorables, c'est-à-dire qu'il arrivait en 3e du Ballon d'Or, il arrivait sur une Coupe du Monde gagnée. Et il y avait ce côté, j'avais envie d'y aller. Là, il a quand même dit non au Barça pour revenir un an après. Et le Barça, ça reste un vestiaire particulier. Faut s'y faire accepter. C'est sûrement pas le vestiaire le plus simple là-dessus, mais quand vous êtes accepté, c'est la famille. Peut-être que la famille, c'était un peu « non, je viens pas ». Souvenez-vous qu'il y avait des bruits, que ça agaçait un peu certains, qu'il ait refusé pour venir après. Voilà. Et peut-être finalement, il fallait… pas y aller du tout et aller ailleurs, soit rester à Atlético ou partir ailleurs. Pour ce qui est de l'équipe de France, c'est vrai que ça va être une vraie question. J'enterrerai pas l'association des trois, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, mais S'il y a un truc dont j'ai pas eu complètement l'impression, c'est qu'il se marchait sur les pieds. J'ai vu dans l'équipe de France des joueurs se marcher vraiment sur les pieds. Là, j'ai pas eu non plus cette impression-là parce que finalement, je pense que, comme tu as dit, Benzema était dans l'esprit et qu'il avait envie que ça fonctionne.
À 100%. Mais est-ce que t'es pas d'accord que finalement Benzema et Griezmann ont des, sans se marcher sur les pieds, mais ont des zones d'influence qui, voilà, ils aiment décrocher, ils aiment jouer avec le ballon. Ils ont des profils qui se rapprochent plus qu'un Giroud, par exemple, qui est pour moi beaucoup plus complémentaire qu'un Griezmann.
Avant, t'avais une association Giroud-Griezmann avec Mbappé, l'espèce d'électron libre. Et là, c'est devenu quasiment du Mbappé. Benzema avec un électron libre qui est Griezmann. Or, Griezmann n'est pas fait pour être un électron libre, c'est un chef d'orchestre. Il y a eu quelque chose aussi, on parlait tout à l'heure de l'interview de Le Graët au Figaro. Il dit oui, Benzema, il a peut-être fallu le rappeler un petit peu plus tôt pour construire quelque chose. Finalement, ça s'est construit dans l'urgence, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça ne fonctionnera pas dans le futur? Je ne sais pas. Après, là, ce qui va être terrible, c'est qu'il va y avoir les matchs de septembre. Et si ça marche contre des adversaires de moindre calibre, on dira ah, c'est fantastique, ça y est, il a trouvé. Ça ne dira pas grand-chose. Mais au moins, ils auront créé quelque chose. Je pense que ça ne tient pas que de Griezmann. Et il y a beaucoup de la variable, on n'en parle pas, la variable Mbappé qui fera que ça fonctionnera
ça, t'as raison.
Ou pas. Voilà. Moi, là-dessus, alors on parlait de ce qu'il faudrait changer, je ne changerais pas forcément ça au départ. C'est-à-dire que si on est persuadé que ce sont les trois meilleurs, essayons de les faire jouer ensemble, mais que ce ne soit pas l'alpha et l'oméga de cette équipe-là. C'est que, comme tu l'as dit, si ils ont construit vers l'avant, Didier Deschamps, alors qu'il fallait construire de l'arrière. Si au bout de 5-6 mois, on voit que ça ne fonctionne pas, bah, il faudra changer quelque chose. Qui sera,
Et qui a le plus de tronche de victime là-dedans?
Voilà, qui aura... Bah oui, c'est toujours pareil.
C'est terrible.
C'est la force et la faiblesse de Griezmann.
On va le rappeler quand même, Maxime. C'est absolument pas ce qu'on disait il y a un mois. Griezmann était le meilleur passeur, deuxième meilleur buteur des Bleus depuis la Coupe du Monde. Faut se souvenir des matchs de préparation aussi où il a été très bon. Donc voilà, c'est la vie d'une
sélection.
Constat cinglant d'une compétition internationale, parce qu'en sélection, t'es obligé de tenir compte du constat et des conclusions d'une compétition internationale qui en disent plus que 50 matchs amicaux.
Exactement, je suis bien placé pour répéter tous les deux jours que les deux ans entre les compétitions ne comptent pas ou peu, sinon pour les joueurs et se faire une place. C'est un mois qui compte, tout simplement. Et c'était valable pour Didier Deschamps, c'est aussi pour ça, c'est la règle. Il faut faire ses preuves en ce mois-là. Il y aura un rendez-vous intéressant pour l'équipe de France. Ah, ça n'a pas la même valeur, mais quand même, la Ligue des Nations.
Oui, parce que tu rencontres la Belgique. Voilà, c'est
un conseil, pas trop la rater, parce que ça dirait aussi autre chose. D'ailleurs, c'est marrant, ils auraient pu faire un peu à la Domenech, on parlait de Deschamps tout à l'heure, un petit sursis en disant il ne faut pas que tu te rates sur la Ligue des Nations. Bon, ça aurait été un peu sévère, mais quand même.
Ça aurait été un peu sec, c'est vrai que cette Ligue des Nations avec potentiellement la Belgique, et derrière l'autre demi-finale, si je ne dis pas de bêtises, c'est Espagne-Italie, c'est ça?
Donc potentiellement champion d'Europe en face, ou au moins le vice-champion d'Europe.
Voilà, donc ou l'Espagne qui est demi-finaliste. Ouais. Donc, si tu t'en sors bien de cette Ligue des Nations-là, en tout cas, tu peux lancer un cycle. Et si les trois fonctionnent bien, le trio fonctionne bien face à la crème de la crème de ce qui se fait de mieux en Europe, ça peut repartir, pourquoi pas. On termine avec le dernier sujet, Maxime. Ouais. Et alors, Griezmann, il sera pas Ballon d'Or, ça c'est à peu près une certitude. Je pense que même s'il marque 10 buts en Ligue des Nations, ça suffira pas, je pense.
Ah, on remarque, c'est 10 buts en 2 matchs, ça peut peser quand même.
Ça le replacerait peut-être,
dans le top 5, je pense.
Ce qui est intéressant de constater, on va parler donc du Ballon d'Or, c'est que c'est un week-end où, sinon, peut-être tout peut basculer. Voilà. Pourquoi? Déjà parce qu'on a deux des trois matchs les plus importants de l'année, avec la finale de la Ligue des Champions. Alors, vous me direz la finale de la Copa América, est-ce que c'est un des matchs les plus importants de l'année? Peut-être pas, mais Brésil-Argentine en finale de la Copa América, ça devient un des trois plus matchs les plus importants de l'année au moment de décerner le Ballon d'Or au mois de décembre. Il y a évidemment la finale de l'Euro. Et ce qui est intéressant à constater, c'est qu'avant cet Euro, il y avait des individualités qui se détachaient. C'était, disons, un peu plus clair qu'à la fin de l'Euro. Mbappé, Kanté, Lewandowski, De Bruyne, pour moi, c'était les quatre qui avaient quand même, franchement, une tronche à aller chercher le trophée en fin de saison. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces quatre-là, il y en a trois qui ont raté leur Euro, je dirais, alors dans des proportions différentes, mais ils l'ont raté, Mbappé, Kanté, Lewandowski, et un, De Bruyne, qui n'en a pas profité pour asseoir son statut. Donc, ces quatre-là ne sont pas sortis vainqueurs de l'Euro. Est-ce que l'Euro va tout chambouler? Est-ce que la finale de l'Euro peut tout chambouler? Est-ce que Messi versus Neymar dans la nuit de samedi à dimanche peut tout chambouler aussi? C'est une vraie question. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, la hiérarchie, Maxime, elle est très, très floue. Et c'est très compliqué de désigner un favori absolu dans la course au Ballon d'Or.
Ouais, dans un monde idéal, Kanté aurait fait un euro de feu. Il aurait marqué demain en finale. Et là, c'était réglé. Il pouvait signer le ballon. Il pouvait commencer la gravure, vous voyez, sur le ballon. Or, Kanté a été juste moyen. Et tout va très vite en football. On a quasiment oublié ce qu'il a fait au mois de mai, au printemps, où il a été vraiment mais stratosphérique de chez stratosphérique. Donc, comme tu le dis, on est dans le flou. Moi, je pense que oui, ce week-end ne va rien changer du tout, pour une raison simple. Alors, hormis, évidemment...
Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est intéressant. On verra ça après.
Voilà. Pourquoi ? Parce que je le regrette amèrement, mais ça dit quelque chose du poids du football de sélection qui aujourd'hui est le parent pauvre du football mondial. C'est-à-dire que les clubs pèsent. En gros, un triplé, on a l'impression souvent qu'un triplé match de poule de Ligue des Champions coûte aussi cher qu'une super perf en demi-finale de l'Euro. Voilà, c'est ainsi. Et surtout, c'est lié aussi à ce que sont les sélections. C'est-à-dire que le football de sélection, c'est des équipes qui gagnent et ce sont des collectifs. C'est moins un football de stars aujourd'hui parce que souvent les stars sont fatiguées ou elles sont dans un collectif. Je le répète à chaque fois, mais regardez depuis la Grèce 2004, ce sont des équipes qui gagnent avant tout. Et si vous regardez le palmarès du Ballon d'Or sur les 14 dernières années, on va remonter à 15 ans. Depuis la coupe du Monde 2006, Cannavaro, il gagne grâce à la Coupe du Monde, mais c'est un exemple très rare. Vous pouvez mettre Modric encore à côté, mais un petit peu moins. Et vous pourriez dire Ronaldo... Oui, et Ronaldo en 2016, sans l'euro, il gagne quand même le Ballon d'Or. Donc, voilà. C'est très particulier, je trouve, parce qu'encore une fois, on est devenu dans un football où le club pèse du kilotonne. Et moi, aujourd'hui, si je devais donner mon favori pour le Ballon d'Or, il n'a pas changé. Il s'appelle Robert Lewandowski pour deux raisons. Il a été spolié de son Ballon d'Or l'année dernière, qui méritait de la tête et les épaules en 2020. France Football n'a pas remis de Ballon d'Or pour les raisons que vous savez, Covid. Donc, je ne serais pas étonné que s'il continue à planter but sur but, qu'il y ait aussi un côté à dire il le mérite sur les deux ans, voilà, parce que ce serait injuste qu'il n'ait pas de Ballon d'Or. Donc, pour moi, le Ballon d'Or, il est à perdre pour lui. C'est-à-dire que si, à la rentrée, il ne marque pas de but sur but, ce qui m'étonnerait, il a battu le record de Gerd Müller, souvenez-vous. S'il plante 25 buts dans la deuxième partie de l'année, il sera Ballon d'Or. Et je pense que ce qui va se passer ce week-end ne pèsera pas très lourd, surtout en finale de l'Euro. Hormis un Kane qui nous fait une Geoff Hurst qui marque 2 ou 3 buts en finale de l'Euro. Pourquoi pas, mais je ne suis même pas convaincu.
Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, dans la mesure où déjà la hiérarchie elle n'est pas claire. Donc, à partir du moment où elle n'est pas claire, il y a une place à prendre. En plus, la finale Argentine-Brésil met aux prises à deux individualités qui, naturellement, même avant que la saison démarre, sont candidats au Ballon d'Or. Bon, je parle évidemment de Neymar, mais je parle surtout de Lionel Messi. Ensuite, tu parles de des sélections qui sont avant tout des équipes, etc. Il n'y a pas de stars. Il s'avère que ceux qui ont gagné la Ligue des Champions cette année, c'est un collectif, puisque le meilleur joueur, c'était N'Golo Kanté, donc ce n'est pas non plus la star des stars. De fait, vu que Chelsea a remporté la Ligue des Champions, il n'y a pas de tête qui dépasse. Donc, là encore, il y a une place à prendre. Si Messi fait une grande finale de Copa América, s'il ramène pour la première fois la Copa América en Argentine depuis qu'il défend les couleurs de l'Argentine, je peux vous dire que ça risque de faire un tout petit peu de bruit et que ça le replacera automatiquement dans la course au Ballon d'Or et pourquoi pas la première place. Évidemment que son palmarès n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait habituellement. Il a juste remporté une Coupe du Roi, mais il a encore des stats monstrueuses parce que je crois que c'est le quatrième meilleur buteur en Europe et je crois que c'est même le joueur, si on met passe décisif plus but, le plus décisif. Donc ça, c'est un argument massu au moment de voter pour le meilleur joueur de la saison. Donc Messi, il peut faire basculer le scrutin ce week-end. Neymar, c'est beaucoup plus compliqué parce que sa saison a été polluée par les blessures, parce qu'au niveau statistique, c'est peu, c'est très faible. Au niveau de palmarès, pareil, il n'a pas réussi à être champion de France. Et c'est pas pareil de ne pas être champion de France quand on est le Paris Saint-Germain que de ne pas être champion d'Espagne quand on est le FC Barcelone. C'est pas tout à fait la même chose. Ça ne signifie pas, l'échec n'est pas le même. Et j'en vois un dernier, tu l'as dit. Alors, si l'Italie est championne d'Europe, ça nous fera un peu comme Chelsea. Je vois pas vraiment de tête qui dépasse. Donnarumma, Verratti, Chiesa, c'est trop juste. En revanche, si Kane met 2 ou 3 buts, comme tu le disais, sachant qu'il a déjà marqué en demi, qu'il a déjà marqué dans les matchs importants de cet Euro, qu'il a terminé meilleur buteur de Première Ligue, il y a des arguments aussi pour Kane. Et au moment de voter à la fin de la saison, ça comptera aussi. Donc si on a des vedettes qui marquent dimanche, ça peut être pour moi un tournant. Dans la mesure où pour l'instant, il n'y en a pas eu de tournant.
Au fond,
il faut bien qu'il y en ait à un moment donné.
Je rêve que tu aies raison pour Kane, non pas pour l'Angleterre, mais c'est de dire, ça remettrait aussi l'église au milieu du village. C'est-à-dire que le meilleur buteur potentiel d'un euro, champion d'Europe, qui a gagné la compétition la plus importante de l'année, soit Ballon d'Or, comme c'était le cas auparavant, là, tout simplement. Or, depuis 10-12 ans, voilà,
bon, mais Modric, pour moi, quand même, il a le Ballon d'Or parce qu'il est finaliste de la Coupe du Monde 18.
Ouais, mais le lapsus, il est là.
Bah oui, mais si. Enfin, oui. Je veux dire,
il gagne le Ballon d'Or parce que oui, et que le Real Madrid met du marketing derrière à gogo.
Évidemment.
Parce que
évidemment.
Il doit jamais. Je le répète et je maintiens, il doit jamais être Ballon d'Or, tout simplement.
Je suis d'accord avec toi aussi.
Et 2014, ça doit être un Allemand. Tu peux chercher 2012, 2010, c'est fantastique.
Oui, mais après, si t'es d'accord. Ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord.
Parce qu'on est rentré dans un football de starification et des clubs.
Oui, mais si Messi gagne la Copa América, là, pour le coup, il y a tout qui s'aligne. C'est-à-dire que tu as la star qui gagne le plus important des trophées internationaux de sa carrière en faisant une saison d'un point de vue statistique qui reste quand même au-dessus de tout.
Oui, mais si on me dit qu'aujourd'hui, la saison de Messi est une réussite, je veux bien...
En gagnant la Copa América, il lui redonne une petite côté.
Mais alors qu'il fasse une immense finale, alors. Au moins qu'on se dise, voilà. Moi, j'adorerais, encore une fois. Moi, je ne revis que tous les deux ans au moment des grandes compétitions internationales. Donc, j'adorerais qu'on retrouve ce côté-là, sanctuariser ces compétitions-là. Mais j'ai un doute. Et moi, je pense que Lewandowski reste dans le siège conducteur parce que la Bundesliga, parce que la saison 2020, parce qu'il plante but sur but. Voilà. Et puis, ce serait peut-être le truc le plus juste, finalement.
On va juste faire un petit... Voilà, on avait décidé de garder 8 candidats potentiels avec Lewandowski, 48 buts effectivement depuis le début de l'année. Mbappé, parce que lui, il en est à 42 et qu'il a fait une super campagne de Ligue des Champions. Messi, on vous a dit pourquoi. Neymar, parce qu'il peut gagner la Copa América et qu'il fait quand même demi-finale de la Ligue des Champions. Kanté, qui gagne la Ligue des Champions. Kane, évidemment. De Bruyne, aussi, parce qu'il est finaliste de la C1 et que mine de rien, son euro est pas si moche que ça. Et Ronaldo, Cristiano Ronaldo, parce que c'est Ronaldo, parce qu'il peut potentiellement terminer aussi meilleur buteur de 7 euros. Donc voilà, ça pourrait jouer entre ces 8-là. Et parmi ces 8-là, eh ben, y en a quand même 3 qui peuvent faire pencher leur destin du bon côté dimanche, tout simplement. On est d'accord, Maxime ?
On est d'accord.
On va terminer. C'est les dernières minutes du FC Stream Team 2020-2021. Donc, c'est assez émouvant. Ce qui fait surtout chialer, c'est qu'on va le terminer avec les pronos MPP. Bah, c'est une vraie galère. Voilà. Pour ceux qui nous suivent depuis le début avec Maxime, MPP nous a choisi pour parler des pronos.
Pour notre bonne humeur.
Et il paraît qu'il y a eu depuis 10 pendaisons chez MPP. C'est-à-dire que celui déjà qui est responsable de ce choix, je crois, s'est défenestré au bout de 3 journées d'euros. Les actions MPP se sont effondrées. La boîte est sur le point de mettre la clé sous la porte à cause de nous. Donc, Maxime, on va continuer dans notre médiocrité en faisant le dernier prono, le prono de la finale. Et évidemment, ceux sur lesquels on va miser vont se vautrer royalement.
Non, parce que moi, en plus, quand j'ai commencé, pour être honnête, parce qu'il faut qu'on vous donne les coulisses. On faisait les fanfarons, tout ça. Moi, j'ai démarré l'aventure avec les pronos. Je me suis dit, bon, je vais me classer.
On y croyait un petit peu.
Non, mais dans les 40%, les 40 meilleurs pourcents, on ne suivait pas bien la compétition parce qu'on suit les Bleus, donc on n'a pas un regard sur les autres matchs. Très précis, donc on se dit bon, ouais, ça va le faire quand même. Après, je crois que j'ai 17 ou 18 bons résultats, ce qui n'est pas ridicule, mais je m'attendais quand même pas à tomber aussi bas. Là, c'est vraiment une grosse remise en cause.
Et pourtant, ridicule, je pense que c'est l'adjectif idoine pour déterminer notre aventure MPP.
Toi, tu peux te refaire un petit peu parce qu'avec le meilleur buteur,
oui, mais avec une grosse escroquerie, c'est-à-dire que moi, meilleur buteur, j'ai mis autre pensant que ça allait être Antoine Griezmann. Eh ben, c'est un autre, mais c'est pas Antoine Griezmann. Et je vais me faire de 200 points grâce à Chic. Quoi. Donc, c'est...
À moins que Harry Kane mette un doublé. Et que...
ouais, ce serait pas bon du tout pour moi. Bon, allons-y, Maxime, pour cette finale. Alors, bon. Qui va remporter l'Euro dimanche, Maxime ?
Moi, je donne. Non, mais je sais pas si. Je vais me planter, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que l'Italie va être championne d'Europe. Voilà.
Ok.
Je mets le classique, le 1-0.
1-0 Italie. Eh ben. Tu sais quoi, Maxime ? Parce que jusqu'au bout, tu vois, on a de la merde jusqu'au cou, j'allais dire. Mais jusqu'au bout, je vais te suivre. Parce que tu es mon capitaine, parce que tu es mon chef et que moi, je suis tout sauf déloyal. Donc, tu vas droit dans le mur, mais je t'accompagne.
Et tu vas mettre l'Angleterre.
Non, je mets l'Italie. Je mets l'Italie comme toi. Mais non, mais jusqu'au bout, Maxime, on sera liés jusqu'au bout. On ira nos destins. Voilà, pieds et poings liés, les pieds dans le ciment. Et je voulais mettre pareil 1-0 Italie. Ouais. Donc, si vous avez une certitude sur cette finale, c'est que ça ne se terminera pas 1-0 pour l'Italie, ça c'est sûr, exactement. Je crois qu'on a fait le tour, Maxime.
Ben ouais, il est temps de dire au revoir, à bientôt.
Au revoir et merci. Merci à Seb, qui a Sébastien Petit, qui a réalisé cette émission. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette saison. Merci à MPP aussi, hein. Les a pas merciés pour leur confiance qu'ils doivent
qui nous
regretter.
Confiance à tort.
Exactement. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous sans doute au mois de septembre, hein, Maxime,
ouais,
a priori.
Ou fin août au mieux, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite compétition qui commence. Ça ne parle pas que de football, même s'il y aura Téju Savanier, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. C'est évidemment les Jeux Olympiques d'été, Tokyo. C'est à suivre sur Eurosport. Abonnez-vous parce que c'est du 24-24. Sur le site, sur l'appli, vous aurez tout ce qu'il faut.
Donc, il y a les images, il y a tout. Hein.
On va faire une petite pause, voilà, parce que là, c'est compliqué. Voilà, on est détenteur de droits, donc tout est sur Eurosport. Et en revanche, il y aura un podcast, je vais annoncer un podcast olympique. Tous les jours, vous aurez rendez-vous avec l'heure olympique où on refera la journée des JO au quotidien, un peu ce qu'on a fait pendant l'Euro, mais version Jeux Olympiques. Donc voilà, suivez-nous.
Et avec Soyez Maxime nombreux. Dupuis. Donc si vous l'aimez, là, vous y avez droit tout l'été.
Ouais. Et je viendrai parler d'athlétisme, surtout, voilà, pour le plaisir.
Et le problème, c'est que forcément derrière, Maxime prend 8 mois de vacances. Donc on le retrouvera au mois d'avril 2037.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et moi, je reviens pour le début de la Stream Team, sans doute au mois de septembre. Avec qui? Je ne sais pas.
Suspense.
On verra.
Donc, soyez nombreux pour voir le line-up de l'émission.
Voilà. Exactement. Donc ce sera avec Maxime, évidemment. Donc rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci de nous avoir suivis. Et puis, passez de bonnes vacances.
Salut, bon été.
Ciao, ciao.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.